Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David, on te retrouve tout à l'heure après l'émission comme tous les jours. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, c'est qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous avons du monde dans le studio. Nous recevons, alors il y a François Carbonel que vous connaissez déjà. Il est venu pour un autre sujet, mais il fait partie de ces gens aussi qui auront plusieurs casquettes. Hein. C'est ça qui est bien. Bon, bonjour, comment
bonjour.
Ça va?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Voilà, nous avons aussi Éric Loutobi, alors enseignant en mathématiques au lycée Taziev de Saint-Paul, c'est ça?
Exactement.
Bienvenue ici.
Merci.
Et nous avons aussi Bernard Savary, qui lui aussi, il ne vient pas ici pour la première fois non plus. Hein.
Non, c'est la troisième fois.
Voilà. Bon, ben, on va passer une petite heure ensemble. On va parler des Landes aux grandes écoles. Voilà la raison de leur présence à ces messieurs. En plus, au niveau calendrier, on est pas mal, je pense, hein, par rapport au timing. Hein.
Oui, tout à fait. Ben, Parcoursup, ils attendent leur réponse pour début juin.
Voilà. Donc, on va passer une heure, on va découvrir un petit peu votre association. Puis, on va parler un petit peu aux jeunes Landais qui nous écoutent ou aux parents des jeunes Landais. On va leur dire que, voilà, ils ne vont pas forcément être mangés à la sauce qu'ils pensaient, qu'ils peuvent faire peut-être autre chose que ce qu'ils pensaient. Voilà, on peut faire plus, peut-être.
Hein. Exactement.
Voilà. Alors, on va d'abord écouter le Flash Info national et international et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. C'est parti, on va découvrir, pour commencer, nos invités. Hein, on demande toujours une petite trajectoire personnelle à nos invités. Et donc, bon, en tout cas, il y a Éric qu'on ne connaît pas, donc il va peut-être nous parler un petit peu de lui.
Tout à fait. Alors moi, je viens de La Rochelle où j'ai passé mon bac. Ensuite, études à Toulouse pour une licence de maths, un CAPES. Et puis, mes premières affectations, je suis toujours resté dans l'Aquitaine, avec quelques départements comme Dordogne, Lot-et-Garonne, et puis dans le 64. Mmh. Et puis depuis 99-2000, je suis arrivé dans les Landes. Donc j'ai fait un petit peu sur Dax et Saint-Paul-les-Dax. Et depuis, on va dire 99, je crois, je suis sur... Saint-Paul et son lycée à Runtaziev.
D'accord, bon, une carrière dans le sud-ouest, il y en a qui en rêvent. Hein.
Et oui, ouais, tout à fait, j'ai eu cette chance.
Ouais. Ouais, ça se paye par une période de TZR assez longue peut-être?
Oui, c'est vrai, des remplacements un petit peu à droite à gauche, mais ça permet d'apprendre le métier aussi.
Ouais. Et connaître le territoire aussi, parce que c'est important l'air de rien.
Exactement.
Parce que le territoire, on va en parler, ça fait partie du sujet aujourd'hui.
Il est très important.
On va parler à François maintenant. Bon, c'est l'occasion de dire aussi, qu'il est avec son compère. On va parler un petit peu de Candate. Alors, quoi de neuf de cette fameuse centrale? Les travaux ont démarré.
Les travaux ont démarré, voilà. Et se poursuivent bien. Et demain, nous allons visiter le site avec les écoliers de Saint-Paul, des écoliers de Saint-Paul, mmh. Et des lycéens. Alors, pas encore les lycéens, mais donc on va visiter le site après avoir fait une visite très très sympa la semaine dernière, grand public, à l'occasion des assemblées générales des sociétés.
Voilà, donc pour rappel, effectivement, donc, vous vous occupez de l'association qui a lancé ce projet de centrale solaire participative avec montage financier qui va avec, etc. On a fait l'émission, c'était fort passionnant d'ailleurs.
Merci.
Voilà. Et vous-même, vous avez fait des études?
Alors oui, effectivement, j'ai fait l'école des arts et métiers à Bordeaux.
Oui.
Et donc, ça m'a tellement plu que je me suis dit que ce serait intéressant de faire venir d'autres personnes et donc d'assurer une formation donc, qui est très, très en attente de gens qui s'y intéressent. Parce que, pour faire simple, en France, on forme 40 000 ingénieurs par an. Et les études montrent qu'il faudrait en former 60 000.
Ah oui.
Pourquoi est-ce qu'on n'en forme pas plus? Parce qu'il n'y a pas assez de gens que ça intéresse. Pourtant, c'est un métier qui est plutôt sympathique, bien payé. Moi, je me suis vraiment... Tous les matins, je me levais avec l'envie d'aller au boulot. Et donc, sympathique, bien payé. Et vraiment, voilà... C'est dommage qu'il n'y ait pas davantage de gens qui aient envie d'y aller.
Mais voilà, mais vous êtes là pour ça. Voilà. Et Bernard, un petit mot, Bernard aussi.
Alors, un petit mot sur Candate d'abord, parce qu'aujourd'hui, la tempête ayant fait des dégâts dans la forêt qui avait été déjà défrichée, aujourd'hui, on a des forestiers qui sont en train de couper les pins tombés pour les amener au lycée Runtaziev gratuitement. On fait un cadeau, voilà.
Excellent.
Et les chèvres reviennent en fin de semaine pour s'occuper des talus.
D'accord. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire avec les troncs à Taziev ?
Ah, ben, ils vont d'abord les débiter, ils vont faire de belles planches pour après, ben, avec leurs professeurs, je pense qu'ils vont, ils auront de quoi s'initier au travail du bois.
C'est la partie lycée pro, oui.
Et ce qu'on pourrait dire aussi là-dessus, c'est qu'en fait, il y a probablement une bonne partie du bois qui va servir à faire les supports
de notre parcours pédagogique qui est conçu avec Madame Loutoubi et sa classe de première art appliqué à Taziev et des écoles élémentaires Gaston Larieux et Henri Lavielle.
Très bien, on a un petit écosystème dans le studio aujourd'hui, ben voilà, c'est bien, très bien. Ouais, alors donc voilà, on va discuter un peu là de ce sujet. Déjà, vous présentez votre association, hein, donc bon, le nom il est explicite, hein, des Landes aux grandes écoles.
Tout à fait, ouais.
Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un s'est dit... On a besoin de faire une association pour promouvoir ça, en fait.
C'est vrai. Et en fait, on a été influencé par notre département, nos amis d'à côté, les Basques, qui ont été à l'initiative, en fait, avec leur propre association du Pays Basque aux grandes écoles. Et en fait, ils sont partis du constat qu'ils réussissaient très bien dans les épreuves nationales de bac et qu'ils ne se retrouvaient pas nombreux dans les écoles et les filières les plus sélectives en supérieur. Donc ils se sont dit, il faut faire quelque chose et ils ont créé cette association. Et comme ça a bien marché, ils nous ont sollicité autour de 2017-2018 afin de répliquer leur modèle dans les Landes. Donc au début, on était un petit peu inquiets parce que déjà que l'orientation, c'est déjà un sacré travail au sein d'un seul lycée. L'imaginer sur un département entier, c'était un petit peu difficile. Et puis au bout d'un moment, on s'y est lancé. Et donc on est maintenant, parce qu'on fait partie d'une fédération, donc des TGE, des territoires aux grandes écoles, on a un peu plus d'une soixantaine de départements qui ont répliqué le modèle maintenant.
Oui. Voilà. Alors on a une spécificité évidemment dans les Landes, c'est un territoire rural étendu, dilué on va dire en termes d'occupation.
Oui.
On le paye aussi par rapport à ça, j'imagine, parce que n'ayant pas de grande agglomération avec des grandes universités ou des grandes réputations, et voilà, forcément il faut bouger.
Exactement, c'est un des freins qui a été identifié, hein. C'est-à-dire que tous nos élèves lycéens, lycéennes qui souhaitent faire des prépas, des écoles d'art ou de sciences, etc., sont tous obligés de partir. Donc ça déjà, c'est une première barrière, donc faut les préparer aussi pour ça, pour partir.
C'est vrai. Alors en plus, voilà, c'est vrai que ça peut faire peur. Bon, on a reçu ici des Landais, des jeunes Landais. Bon, c'est vrai, il faut les pousser un petit peu à partir des fois.
Oui, hein, certains, certains, c'est Bayonne ou Pau. Pour certains, Bordeaux même, c'est difficile.
Ouais. Alors après, je pense pas que ce soit spécifiquement landais, je pense que c'est rural en fait, hein, c'est le territoire lui-même.
Tout à fait.
Parce que les Landais, on est bien d'accord, hein, ils sont pas plus bêtes que les autres.
Non, mais donc, ils aiment bien leur territoire, et parfois c'est un peu difficile pour le quitter, mais nos voisins, les Basques, ont le même souci, donc c'est pour ça qu'on essaye d'être là, de leur montrer que des aînés qui sont passés par leur lycée, et qui l'ont fait, sont tout à fait à même de pouvoir revenir, s'ils le souhaitent.
Oui, alors ça c'est vrai que c'est une chose, là moi j'ai vécu dans ma longue carrière, mais il y a un moment qui est sympa, des fois dans les classes, à certaines périodes de l'année, c'est que quand c'est les vacances scolaires décalées, hein, qu'il y a des élèves qui sont en prépa ou en école d'ingé, qui reviennent sur les lieux du crime, si je puis dire, hein, en classe de terminale, souvent,
tout
avec leur
fait.
Enseignant, et, et là les élèves sont super contents, disent « Ah oui, alors t'as fait quoi? T'es allé où? Comment ça se passe ?» Ça c'est un moment privilégié, ça quand même.
On essaye de multiplier ces interventions-là, parce que comme vous dites, ils aiment bien voir des aînés qui reviennent et qui leur parlent un petit peu de qu'est-ce qui se passe derrière la barrière du lycée.
Oui.
Et en fait, ils s'aperçoivent que voilà, il y a un monde possible qui leur est ouvert, et des modèles qui leur sont proposés et des belles carrières après. Parce qu'en fait, on a des étudiants qui viennent et après, les plus anciens qui sont des professionnels viennent présenter leur métier.
Oui, bien sûr.
Donc du coup, ils découvrent, comme vous dites aussi, d'autres métiers qu'ils ne soupçonnent même pas. Parfois des métiers qui n'existent pas dans leur département. Donc c'est une ouverture vers l'extérieur.
Oui. Alors, d'autant plus que bon, c'est pas parce qu'on part qu'on ne revient pas. Hein. Donc c'est vrai que
c'est vrai.
Voilà, je parlais tout à l'heure des anguilles. Hein. Les auditeurs connaissent des fois. Je fais un peu cette blague. Les Landais qui partent et qui reviennent, c'est pas parce qu'on va faire des études à l'autre bout de la planète.
C'est vrai.
On peut pas vivre après ici. Hein.
Oui, on en a deux ou trois là qui sont revenus après des études d'ingénierie dans l'agronomie et qui ont été embauchés par des grandes entreprises, donc je ne dirais peut-être pas le nom là ici, mais des bien connues et qui fabriquent des produits qu'on aime bien, qu'on aime bien partager autour de Noël. Donc voilà, certains sont déjà revenus. Oui, tout à fait.
Ouais. Ben oui, voilà, c'est ça. Donc c'est bon, ça fait partie de votre credo, hein, un petit peu d'expliquer voilà aux jeunes que non seulement c'est pas un frein, c'est pas un danger de partir, au contraire, c'est un sacré enrichissement. Bon, tous ceux que je connais qui sont partis, ils sont super contents de revenir, mais ils sont super contents d'être partis.
Voilà. Donc c'est des bons exemples quand ils reviennent et qui portent la bonne parole. Donc un des objectifs justement de l'association, c'est de leur de donner accès à ces lycéens et lycéennes un réseau. Plutôt un réseau d'excellence, parce que le cahier des charges, c'est ça, hein, c'est essayer de les aider pour les filières les plus sélectives, avec des pôles sciences, des pôles arts. Tout à l'heure, Bernard parlait de la première art appliqué, donc voilà, ils sont, eux, ils n'ont pas le choix. Tout est très sélectif, beaucoup d'écoles sont sur Paris. On a un pôle lettres aussi et un pôle économie. Et on essaye en fait de prendre appui sur les réseaux qui existent déjà au sein des différents lycées des Landes, afin de permettre à leurs anciens de revenir dans les lycées, parler de leur expérience, de leur métier, parce que voilà, les plus anciens maintenant travaillent. Et comme ça, ça leur permet d'oser, parce que parfois, il faut franchir le pas.
C'est une question d'ambition, des fois, tout simplement.
Exactement, voilà, les compétences sont là, mais il faut oser. Parfois, on s'aperçoit qu'il faut même les aider, hein, à les préparer. Oui. Et puis, une fois qu'ils y sont, il y a une sorte de service après-vente aussi. On est là pour les aider. Il y a des périodes de l'année qui sont un petit peu difficiles pour le moral.
C'est vrai,
Donc, on est là pour les soutenir. Il y a des anciens qui sont identifiés dans notre association et qui leur permettent parfois de remonter un petit peu le moral. Ouais. Des recherches de stage, etc.
Bon, on va déjà faire une première pause, on va écouter un petit peu de musique, on va écouter un scientifique aussi, un grand scientifique. Les gens ne le savent peut-être pas, on en parlera après cette petite pause musicale, à tout de suite. Et voilà de retour, alors c'était Queen, mais pourquoi Queen? Parce que Brian May, le guitariste de Queen, le fameux guitariste, il a un doctorat en astronomie, hein. Donc il a fait des publications scientifiques, etc. Et c'est même lui d'ailleurs qui a fabriqué sa guitare avec son papa il y a des années. Donc voilà, c'est un scientifique qui est quelqu'un qui a fait deux carrières, hein. Comme quoi un choix qu'on fait à un moment donné, c'est pas forcément des portes qui se ferment définitivement.
Exactement.
Surtout par les temps qui courent, où à une époque, c'est vrai, comme les vieux comme moi, on connaît une période où une étude, un diplôme, c'était une ligne droite jusqu'à la retraite. Et ça n'existe plus, me semble-t-il.
Non, c'est vrai, oui. On voit des exemples. Il y a une ingénieure là, de l'ASSO qui travaille à Thalès-Bordeaux, hein, qui est rentrée avec des compétences en optique. Elle avait fait une sup-optique, je crois, à l'école parisienne. Et je pense qu'en 10-15 ans, elle a dû changer trois fois de responsabilité en devenant chef de différents projets, s'occupant de formation et ne faisant plus du tout ce pourquoi elle avait été formée au début. Donc voilà.
Oui.
Comme disait tout à l'heure François, c'est un métier, l'ingénierie, qui est très riche et qui permet, si on le souhaite, différentes carrières sur différents domaines. Voilà.
Ah oui, il y a beaucoup de sujets. Oui. Alors, votre association, son objectif, son fonctionnement, c'est quoi? Donc, on a dit le mot tout à l'heure, réseau.
Oui,
aussi,
alors justement, voilà. Donc, le cœur du métier, c'est ça, c'est donner accès aux lycéennes, lycéens, à des informations qui sont fraîches et récentes, on va dire, parce que les infos d'une année à l'autre jaunissent un peu rapidement. Donc l'idée, c'est que il y a déjà un premier travail de fait dans chaque lycée sur orientation. Les collègues s'en occupent et passent énormément de temps. L'idée avec le réseau, c'est de pouvoir amener des informations récentes. Bon, ça c'est une première chose. En particulier, depuis l'année dernière, un groupe s'est créé qui s'appelle Les Audacieuses, qui est constitué de lycéennes, d'ingénieurs femmes, et qui a pour objectif de... essayer de solliciter justement les collégiennes et les lycéennes à s'orienter vers des carrières scientifiques. Donc il y a ce deuxième objectif aussi qui nous tient à cœur. Donc elles interviennent dans les lycées. Éventuellement, cette année, on a commencé avec un collège, voilà, collège de Dax, du Sarat, et auprès de collégiennes pour leur montrer que voilà, la science, l'ingénierie, ça peut se conjuguer aussi au féminin.
Ben oui, voilà. Oui. Ça, c'est vrai que c'est un problème dont il faut parler, ça, je crois.
Exactement. Voilà. Donc ça, c'est un des objectifs qu'on a et qu'on essaye de tenir. Mmh. Voilà.
Alors, tout à l'heure, François parlait des arts et métiers. Alors, parce que des fois, les gens ne connaissent pas forcément exactement ce que c'est, parce que arts et métiers, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça fait penser à de l'artisanat de haut niveau. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y apprend?
On y apprend surtout à apprendre. Mmh. Les arts et métiers, c'est un titre qui a été donné, il faut voir à quelle époque, hein, puisqu'elle avait... L'école des arts et métiers va bientôt fêter ses 250 ans.
Ah oui, quand même.
Et donc à l'époque, c'est donc les noms qui ont été donnés, donc les arts, c'est le fait de savoir comment on fait les choses, et le métier, c'est la manière de les faire, de les mettre en œuvre.
Donc ingénieur, c'est pas mal comme profil.
Voilà, ingénieur, c'est exactement... Oui. Donc les arts et métiers, c'est une école d'ingénieurs, généralistes, et effectivement, on a quand même une petite dominante sur la mécanique, d'une manière générale, et donc sur la technique. Mmh. En fait, l'ingénieur arts et métiers, majoritairement, travaille dans la production, le fait de faire les choses, de réaliser les choses. Mmh. Mais il y a de tous les métiers là-dedans. Et alors en particulier, donc, les arts et métiers, je rebondis sur ce que disait Eric par rapport aux jeunes filles, on a énormément de mal à recruter d'une manière générale dans les écoles d'ingénieurs des jeunes filles, et en particulier aux arts et métiers. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, comme l'a fait des Landes aux grandes écoles, une exposition qu'on porte dans les collèges qui s'appelle « Technologie non féminin ». Parce qu'on essaye d'attirer des jeunes filles à s'intéresser à la technique et aux métiers scientifiques et techniques.
Oui.
Parce qu'il y a vraiment un boulevard pour les jeunes filles qui voudraient faire ça. En gros, là où, en sortant des arts et métiers en particulier, mais des autres écoles, c'est vrai aussi, on a 3 propositions de boulot, les jeunes filles, elles en ont 5 ou 6. Parce que les entreprises cherchent à mixer leurs équipes et donc ils souhaitent avoir des jeunes filles et donc ils cherchent à les recruter.
Alors justement, cette formation-là, arts et métiers, est-ce que c'est connu, vraiment populaire chez les gens? Parce que la plupart des lycéens que je fréquente, j'en ai fréquenté dans ma vie, ça ne leur parlait pas trop en fait, il n'y avait pas d'aura particulière. J'ai parlé hors antenne, on parlait de Sciences Po, là il y a eu un gros rush sur Sciences Po tout à coup, mais c'est vrai, arts et métiers, je sais pas. Donc du coup, votre job, c'est de rétablir un petit peu ça, ce déficit de communication.
Alors, je rate effectivement peu d'occasions de parler des arts et métiers, mais d'une manière générale, moi je préfère parler des métiers scientifiques et techniques, dont les métiers d'ingénieur.
En général.
Et parce que c'est là-dessus qu'il y a vraiment un déficit. Les arts et métiers, c'est une des 10 premières écoles en France, hein, suivant les classements, parce qu'il y a plusieurs systèmes pour approcher ça. Si on regarde le classement des directeurs de ressources humaines, on est dans les 5 premières. Si on regarde l'étudiant, on est un peu plus loin. Donc voilà, mais l'important, c'est qu'il y ait beaucoup de jeunes qui aient envie de s'orienter vers ces métiers-là. Oui. Après, de toute façon, ils trouveront leur voie.
Alors de toute façon, donc il y a un constat de déficit dans la société, hein, on est d'accord. Et alors vous avez des chiffres plus ou moins approximatifs qui illustrent un peu ça, entre les besoins et ce qu'on a vraiment qui sortent des promos.
Alors oui, effectivement, c'est ce que je disais au début. Donc on a 40 000 ingénieurs qui sont formés tous les ans, ingénieureux aussi, il y en a quelques-unes, 25% environ. Et il en faudrait 60 000.
Oui.
Donc l'écart provient du fait qu'il n'y a pas assez de candidats pour aller se former. Il y a des écoles d'ingénieurs qui ne remplissent pas leurs effectifs parce qu'ils n'ont pas assez de candidats.
Ça c'est quand même dommage.
Ah, c'est quoi? Tout à fait dommage. Alors, surtout qu'il n'y a pratiquement pas de chômage chez les ingénieurs.
Ça, c'est vrai qu'en général, quand on arrive à la fin de l'école d'ingénieur, on choisit son prochain employeur, en gros.
Voilà.
En gros, je caricature, mais c'est vrai que c'est un peu ça quand même ce qui se passe. Et... Voilà, on va essayer de persuader nos jeunes auditeurs d'y aller. En plus, il y a du boulot et c'est bien payé, franchement.
Hein, voilà, et c'est là que Bernard intervient, parce que c'est lui qui nous ouvre les portes des écoles. Et donc, on intervient beaucoup dans les écoles primaires et dans les collèges pour porter ces messages-là. Et en particulier, donc, on se sert d'outils pédagogiques qu'a monté Bernard pour parler de techniques autour de l'énergie, ce qui me va très très bien, parce que j'ai fait toute ma carrière chez EDF
et Nice.
Et c'est un domaine que je trouve passionnant.
Très bien, mais on va écouter ça après cette deuxième pause. C'est le moment de faire la pause des infos locales. Hein. On se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Et nous retrouvons nos invités hein, des Landes aux grandes écoles. Alors, on allait écouter Bernard qui allait nous parler de s'attaquer au problème à la source. Hein. Plus on commence jeune et mieux c'est, n'est-ce pas?
Ah, sûrement. Non, mais il faut s'attaquer au problème à la source et dès la maternelle. Je crois que le handicap des filières technologiques et mathématiques et scientifiques, c'est la peur qu'ont les enfants de s'engager dans les filières et souvent aussi la pression des familles. La pression des familles qui préfèrent les formations générales. Mais bon, pour y arriver, je crois qu'il faut dès le plus jeune âge les livrer au contact avec tout un tas d'objets technologiques, de réflexion autour de ces éléments, de réflexion autour des choses de la vie. Et là, bon, on a constitué une équipe avec pas mal d'ingénieurs à la retraite ou en activité, et puis d'autres personnes, bon, issues, on a une infirmière, moi j'étais de l'éducation nationale, et on fait une vraie équipe, on est une dizaine. Alors, on a des activités ludiques avec tout un tas de modules que l'on a choisis et conçus. Et puis, on a des activités un peu plus didactiques autour du développement durable dans le cadre d'une labellisation patronnée par l'Éducation nationale, E3D. Et on intervient de 6 à 12 fois dans une année scolaire. Ça fait pas mal quand on passe 3 classes dans la journée. C'est une bonne activité pour des retraités. Et heureusement qu'on a aussi des actifs pour nous appuyer.
Oui, bien sûr. Oui.
L'enjeu pour nous, c'est vraiment de les amener à réfléchir sur le monde de demain et à s'emparer aussi de leur orientation. Voilà. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, il faut qu'on trouve des partenaires. Alors, sur le pays d'Aqua, on a réussi depuis 5 ans à trouver tous les ans une école à accompagner. Pour l'année prochaine, le choix est déjà fait. Et là, on a terminé la dernière séquence à Saint-Vincent-de-Paul la semaine dernière. C'était un ravissement parce qu'on a réussi à avoir pratiquement 100% de participation et d'attention active chaque fois. Pendant les manipulations, pendant les parties ludiques, mais aussi quand il fallait réfléchir, débattre. Et on a même réussi à mener le débat avec les familles sur le sujet des économies d'énergie. Et ça, pour nous, c'était une victoire. On commence à être rodés aussi. Et puis les équipes d'enseignants nous font confiance, nous appellent. Bon, c'est satisfaisant. Maintenant, il faudra réussir quand même à être plus efficace parce que quand on voit que depuis 5 ans, les effectifs dans les classes qui se destinent à l'ingénierie ont diminué de moitié sur le pays d'Aqua, que ce soit à Borda ou à Taziev, c'est un peu désespérant.
Alors ça, c'est un peu étonnant parce qu'on a eu un discours quand même, bon, ici on ne fait pas de politique, mais bon, ça fait partie de la cité. On a eu des discours à une époque vraiment en disant qu'il fallait relancer justement l'ingénierie, la science, c'est-à-dire au lieu de sous-traiter, on allait devenir une société qui faisait que du tertiaire et c'était les Chinois qui allaient faire le reste. Mais on en est où du coup?
Si on va sur ce domaine-là, effectivement, si on veut réindustrialiser la France, il faut des industriels. C'est la première chose qu'il faut. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, il faut continuer à former et à développer les formations scientifiques et techniques. Je pense qu'on est tous autour de la table là, à pousser dans cette direction-là.
Oui, c'est une bonne raison de plus. C'est aussi notre indépendance, que ce soit énergétique ou scientifique ou technique, et pas dépendre des desiderata d'autres dirigeants d'un monde. Enfin, je n'ai même pas besoin de dire le nom, vous imaginez de qui je parle.
Oui, tout à fait. Surtout que on a des exemples des anciennes et anciens qui reviennent et qui nous parlent de leur métier sur les domaines de, comme tu dis, de l'énergie. Certains, c'est pour des nouvelles voiles pour des bateaux tankers. D'autres, c'est sur des nouveaux tissus. Il y a plein de métiers en fait qui se sont créés même parfois récemment. Donc c'est intéressant de les voir revenir pour nous parler de métiers. Qui parfois n'existait pas même il y a quelques années. Ça va continuer comme ça.
Alors, votre diagnostic à vous, fondamentalement, qu'est-ce qui fait qu'il y a moins ou pas assez de postulants pour ces carrières-là que vous essayez de mettre en avant. La raison principale, c'est quoi? Manque de confiance, manque de moyens, c'est quoi, d'après vous?
Alors, si on prend l'axe un petit peu genré, par rapport aux garçons et aux filles, on parlait tout à l'heure, Bernard parlait d'activités ludiques. Il a tout à fait raison et je m'aperçois, parmi mes élèves, les garçons, ils voient les maths comme... ils ont un meuble avec tous les jeux de société avec lesquels ils jouent depuis petit. Sur l'étagère, ils rajoutent un jeu qui s'appelle les maths, les échecs, et ils jouent avec comme si c'était un jeu. Et c'est cette attitude est assez positive, justement, je trouve, pour progresser, faire des expériences, se tromper, recommencer. C'est comme ça que, voilà, avance la science. Et je vois un côté beaucoup plus sérieux, hélas, du côté de mes élèves filles lycéennes, qui prennent la chose très au sérieux, c'est-à-dire qu'elles vont réhésiter à 3 fois avant de donner une réponse, il faut que ce soit la bonne réponse. La tentative et l'échec, on dirait qu'elles ne se permettent pas cette porte d'échec. Elles n'osent pas parfois être fainéantes, comme je leur dis. Il y a des démarches mathématiques où, justement, le fainéant, il va essayer de trouver une stratégie particulièrement efficace pour arriver en transpirant un petit peu moins à l'objectif. Voilà, il y a un petit peu dans la... Mais peut-être que la société aussi y contribue, je veux dire, à les enfermer dans ces carcans-là. Donc nous, on essaye de détruire un petit peu ces stéréotypes et ces carcans. Parce que, comme disaient mes collègues ici à l'émission, les écoles leur ouvrent les portes, vraiment. Il y a de la place pour elles, pour des carrières de tout type. On a des exemples. Heureusement qu'elles reviennent un petit peu pour parler justement de leur carrière.
Alors vous faites aussi du tutorat, ça fait partie aussi des...
Alors oui.
C'est le service après-vente aussi.
Alors il y a différents types de tutorat. Alors on a eu la chance, ici la TASIEF, d'avoir un partenariat avec les écoles normales supérieures de France, qui ont créé une association qui s'appelle Emancipe et qui, depuis 3 ans maintenant, propose un tutorat en distanciel. Alors principalement pour nos terminales, mais cette année, on a expérimenté aussi un peu les premières. Et donc, ils peuvent, une heure par semaine, sur au moins 10 semaines, parce qu'ils aiment bien que ce soit sur le temps long. Et là, les lycéens et lycéennes peuvent, par le biais d'un mail, tout simplement, faire part de leurs demandes. Alors ça peut être du soutien, n'importe quelle matière, ça peut être des sciences, des lettres, des langues. C'est vrai que la plupart du temps, c'est des sciences. Ça peut être de l'approfondissement, voire cette année, on a innové, certains se sont préparés pour le concours général. Voilà. Il y a eu 2 garçons, 2 filles, donc voilà, on a eu la parité cette année à TASIEF qui ont pu se préparer par l'intermédiaire de ce tutorat-là. Voilà. Et puis après, on propose aussi parfois une aide quand ils sont dans leur prépa ou école en 5 ans. Quand il y a des petites difficultés techniques, on fait appel... quand le niveau augmente un peu trop rapidement pour nous, on délègue auprès de ceux qui sont en école d'ingénierie et qui prennent le relais pour faire mieux les choses.
Oui.
Voilà.
Et ce principe du tutorat est à maintenir et à mettre en évidence, parce que quand les familles ne peuvent pas accompagner...
Exactement. Et justement, donc, souvent les domaines donc, sont tellement pointus que... les familles sont un petit peu dépassées, ce qui est tout à fait normal. C'est là où, justement, l'association, on a un rôle de passeur, quoi, en fait. Et de mettre ce réseau d'excellence d'anciens qui demandent qu'à montrer leur savoir-faire et à montrer le chemin auprès de nos lycéens et lycéennes qui sont parfois en demande. Voilà. Et ce lien est important, oui.
Et ça rejoint aussi à un point que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que quand on est avant le bac, on règle des problèmes, on apprend à régler des problèmes dont tout le monde a la solution. Quand on est en prépa, on commence à régler des problèmes dont quelques-uns ont la solution. Et après, quand on est en école d'ingénieur, on apprend à régler des problèmes dont personne n'a la solution. Et une des méthodes pour régler ces problèmes, c'est de travailler en réseau, travailler en collectif. Et donc ça, c'est très très important. Et donc cette notion de tutorat, c'est enrichissant pour tout le monde, y compris pour le tuteur.
C'est vrai que des fois, c'est intégré même dans certaines écoles ou formations. Il y a déjà, quand on arrive, on est pris sous l'aile d'un ancien, entre guillemets. Alors une chose, on en parle aussi hors antenne, il faut que les élèves qui se tâtent un petit peu les jeunes, c'est que quand vous rentrez dans une école, une grande prépa, un truc comme ça, en fait, c'est pour la vie. Parce que vous allez vous faire des relations, rentrer une famille et vous aurez toute votre vie, des copains, vous aurez vécu des choses ensemble, et ça, hein, y a vraiment un ciment comme ça, social et vraiment de copains et tout, qui est vraiment très chouette, hein, qui perdure, hein, ça c'est beau à voir ça aussi.
Oui. Et ce qu'il faut dire aussi aux jeunes étudiants, c'est que les classes préparatoires ont vraiment changé. Autrefois, c'était un lieu de concurrence, un lieu très désagréable à vivre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est le travail en équipe, le travail de groupe.
Oui, c'est vrai que souvent, on est dans les Landes, hein. C'est un terrain de gavage. Donc, ça a souvent été associé au gavage, hein. Les prépas. Hein. Ça fait un peu peur, comme médecine. Hein.
Oui,
médecine,
oui. Avec des enseignants qui sont particulièrement bienveillants. C'est-à-dire que voilà, les angles se sont arrondis. Hein. On est en contact, nous, régulièrement avec des enseignants de Bayonne, sur Cassin, Montaigne, Bordeaux et partout aussi. Et parfois, certains d'entre eux même viennent chez nous pour montrer leur façon de travailler, ce travail collaboratif, etc. Et voilà, on trouve des gens particulièrement bienveillants qui sont à l'écoute. Mmh. Certes, les exigences sont très hautes. Il y a peut-être, comme tu dis, un peu de gavage. Mais derrière, il y a des gens particulièrement compétents et bienveillants. Ça a changé, comme tu dis, Vernon.
Et un élément aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que on parlait tout à l'heure du déficit dans les formations d'ingénieurs. Quand on rentre dans une classe préparatoire, on a entre 80 et 90% de chances de sortir 5 ans après avec un diplôme d'ingénieur.
C'est vrai.
Parce que même si on n'a pas l'école dont on rêve, on prend la précaution de passer un concours un poil en dessous de celui qu'on vise, de manière à assurer le coup.
C'est ça.
Exact. C'est ce qui se passe d'ailleurs en ce moment-là. Ils sont en concours, justement, là. Depuis 2 semaines, là, que ce soit pour les grands concours, XENS, les centrales Mines-Ponts. Après, il y a deux autres crans, la SSINP, et d'autres écoles qui sont plus accessibles. Mais voilà, faut pas les snober, parce qu'en fait, nous, on en a certains qui ont fait, entre guillemets, ce qu'on appelle des petites écoles d'ingénieurs, mais qui ont des belles carrières, sont très contents de leur métier, qui ne connaissent pas le chômage. Donc voilà, parfois dans les classements, certes, il y a des écoles qui sont loin dans le classement, mais voilà, parce qu'il faut classer. À l'arrivée, on a une chance dans ce pays, c'est d'avoir un très grand nombre d'écoles, en tout cas en sciences, qui sont toutes compétentes.
Ben voilà, ben messieurs, c'est le moment de faire une dernière pause pour la dernière partie de cette émission, et on conclura ensuite. On se retrouve après ça. Et voilà, de retour. Alors, c'était The Offspring, Dexter Holland, le chanteur. Et ben, figurez-vous que lui aussi, c'était un scientifique. Et oui, c'était un biologiste. Et donc, voilà, encore une fois, pour illustrer le fait qu'on peut faire plusieurs choses. Il ne faut pas croire que parce qu'on prend une direction un jour, on la garder tout le temps. Voilà. Et alors, il faut parler aussi, on veut parler des visites dans les entreprises, etc. Parce que, de la même manière qu'il y a des petits stages, des fois, nous, on en reçoit à la radio, même. C'est-à-dire, c'est sympa. Pour passer un petit peu de temps dans un endroit pour déjà éliminer les fantasmes qu'on a, hein, et être confronté à la réalité, et puis découvrir des choses qu'on ne connaît pas vraiment.
Oui, tout à fait, effectivement. Une des raisons pour lesquelles, effectivement, il existe des Landes aux grandes écoles, et on travaille aussi pas mal avec les anciens des arts et métiers, et puis des gens avec lesquels on travaille, par exemple Bernard, c'est que les métiers de l'industrie, les métiers de la production, les métiers scientifiques et techniques sont peu connus. Bien souvent, les Landais connaissent le métier de papa-maman, bien sûr.
Oui, voilà. Oui.
Instituteur, professeur, etc., il y a aucun problème, ils ont la représentation, médecin ça va aussi, mais dès qu'on sort un petit peu de ce domaine-là, on ne connaît pas. Et donc, avec les arts et métiers, on organise ce qu'on appelle les journées usines ouvertes. Donc on demande à des usines d'accueillir des scolaires et leurs parents, et des gens de la société, pour montrer ce qui se fait. Et donc, on a organisé ça dernièrement, c'était au mois de mars, et donc la date est déjà programmée pour l'année prochaine, c'est le 2 et le 3 avril donc 2027, et donc on demandera à des usines d'ouvrir leurs portes pour que les gens découvrent la réalité. Et donc cette année, on a eu de 200 jeunes qui sont allés dans des usines, hein. Il y en a eu deux sur Dax, hein, Gascogne Flexible et Atelier Film, une sur Casse-Tête avec Dassé Construction, et les jeunes sont ressortis ravis, les industriels aussi, les industriels sont ravis aussi de voir des jeunes qui s'intéressent à leur métier, et vraiment c'est quelque chose de très très fort pour eux. Et donc vraiment une belle réussite, et on va poursuivre.
Très bien, ouais.
Ouais. Et nous aussi, on avait un partenariat avec la société Eiger qui nous avait proposé aussi des visites d'entreprise. Donc on va les recontacter parce qu'ils étaient tout à fait ouverts pour montrer les savoir-faire. Alors on en a certains qui ont fait des stages même dans cette entreprise-là, Rion des Landes, je crois, en tant qu'ingénieur. Et donc c'était intéressant d'aller visiter et de voir certains de nos anciens qu'on avait eu au lycée, qui étaient passés par leur école et qui étaient en fin de cycle ingé, qui faisaient leur stage là-bas. Ouais. Donc voilà, on va les recontacter pour justement aller montrer un peu les métiers de l'entreprise.
Alors oui, alors les anciens élèves, bon, c'est vrai que c'est un des avantages ou des inconvénients quand on vieillit, c'est qu'on retombe des fois dans la vie sur des anciens élèves. Hein. C'est signe qu'on a... Le mauvais cap, c'est quand on a les enfants des élèves qu'on a eus. Là, oui. On se dit, oula, ça y est, on je suis pas. Sur la mauvaise pente.
Et les petits-enfants.
Et les petits-enfants, ouais, alors là, c'est...
Je voudrais insister sur l'importance aussi de l'artisanat. Parce que dans nos actions, nous soutenons la CAPEB, hein, qui est leur organisme professionnel. Et... les métiers de l'ingénierie sont étroitement liés avec l'artisanat. L'artisanat fait partie des arts et de la science. Et c'est essentiel pour la société. Et aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont encore bâchés. Et il n'y a aucune raison de le faire.
Oui.
Et ça a un côté un peu ridicule dans une société où il y a aussi des métiers de proximité. Et
il en faut.
Et il en faut.
Bah oui. Alors sur l'artisanat, alors il existe des disciplines qui sont devenues rares, qui peuvent être du coup très rémunératrices. Enfin, je veux dire, voilà, si on fait un calcul entre la formation qu'on fait et l'argent qu'on va gagner, il y a des postes d'artisans qui sont tellement rares que forcément, c'est impossible d'être au chômage. C'est pas possible.
Oh oui, plombier par exemple.
Oui, voilà.
Il y a aussi la passion, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dans l'industrie, ou dans l'enseignement, ou ailleurs, et qui quittent toutes les filières qu'ils avaient, dans lesquelles ils avaient œuvré jusque-là, pour aller vers l'artisanat, parce qu'ils se sont découverts une passion.
On en a reçu ici déjà, on a déjà eu cette discussion avec des gens effectivement qui, à un moment donné, se sont dit « mais en fait, j'avais toujours envie de faire quelque chose de mes mains, de concret, et puis qu'à un certain âge, hop, il a basculé, d'où la notion de trajectoire que j'ai évoquée au début. Hein, » Donc c'est, voilà, est-ce que c'est ça l'enseignement? Est-ce que c'est la création de socle large pour pouvoir rebondir après? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, votre recul à vous, hein, vous êtes passé à travers ce moulinette, vous en faites même partie d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le prof de maths.
Oui, ça peut être une perspective en effet. Maintenant, c'est vrai qu'avec les réformes, on les oblige. C'est vrai que nos lycéens sont quand même mis en pression. On les oblige à choisir très tôt leur spécialité en fin de seconde. Donc ça presse un petit peu, du coup, les choix. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que si on prend les bonnes doublettes de choix, ou triplettes en première et doublettes en terminale, les portes restent quand même pas mal ouvertes. Et si on oublie de prendre certaines spés, c'est plus difficile.
Voilà.
Donc du coup...
Vous êtes là pour conseiller aussi à ce niveau-là,
Exactement. Voilà. On essaye d'être au mieux. C'est un travail que font tous les collègues qui ont en charge les classes de seconde. Donc on travaille beaucoup avec eux.
C'est vrai que c'est une tâche qui est apparue un jour dans votre planning, qui n'était pas avant, n'est-ce pas?
Non, c'est vrai, ça n'y était pas. Il y a eu une grosse tâche d'orientation qui, en fait, est très chronophage. Intéressante, mais très chronophage.
C'est pas très cohérent. On a une orientation qui est précoce dans une société qui évolue en permanence et avec des métiers qui évoluent en permanence. Et faire des choix, c'est renoncer. Et renoncer trop tôt, ça ne va pas du tout.
Pour certains qui n'ont pas encore de projet défini, ce qui est tout à fait normal au début du lycée, hein. Nous on en a certains, et même à la fin de la prépa, ils vont à leur concours, ils ne savent pas trop encore dans vers quelle école ils veulent aller. Donc c'est vrai que pour certains, seconde c'est tôt. Hein. Les choix, c'est très tôt.
Très bien. Bon, ouais, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Alors, en résumé, il faut quand même expliquer à nos jeunes auditeurs et aux parents de leurs jeunes auditeurs, bien sûr, c'est un partenariat, hein, que voilà, il faut qu'ils croient en eux, en fait, parce que peut-être qu'ils n'imaginent pas à quel point ils sont bons.
C'est possible.
Et surtout, les filles. Hein, on est d'accord. Hein.
Exactement.
Pensez pas que vous êtes plus bêtes que les garçons, les filles. Ça, c'est pas vrai.
Voilà. Et si les parents même peuvent nous solliciter, voilà, on a par Instagram, dès lors aux grandes écoles, ou par mail, voilà.
Je mettrai un lien, un podcast. Voilà. Comme
on pourra donner aussi notre mail. c'est possible aussi pour les parents de communiquer avec nous.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Voilà, je suis sûr qu'on a dû merci inspirer quelques carrières. Si ça se trouve, on verra un jour les retombées de cette émission.
On espère,
vous verrez.
Oui. Ouais.
Dans 30 ans, je suis sûr que je serai plus à Metz.
On va voir.
Ouais, allez. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.